meters. Go straight, and then go straight.
Entre les pages. Nous sommes au mois de juin, même si l'émission sera diffusée un petit peu plus tard. J'ai repris mes pérégrinations estivales pour essayer de vous faire découvrir des moments ou des lieux un peu particuliers de l'Anjou. Je vous ai emmené dans beaucoup d'endroits les étés précédents. Et cet été, j'ai décidé d'aller dans des bibliothèques insolites. Alors insolite, c'est peut-être pas le bon terme, parce que derrière insolite, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de l'exotisme. Donc ce n'est pas sous cet angle-là, c'est plutôt des lieux particuliers qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas et qui mériteraient peut-être qu'on aille leur rendre visite. Donc aujourd'hui, je suis venu par des premières chaleurs, j'ai encore traversé la campagne de l'Anjou et je me suis rendu dans la bibliothèque du château de Serrans. Je suis arrivé un petit peu en avance. J'ai été accueilli sur le parking par Geoffrey Chevalier qui m'a donné l'opportunité de faire quelque chose que sans doute pas tous les visiteurs peuvent faire, c'est de passer dans les souterrains du château pour accéder à la bibliothèque. Merci Geoffrey Chevalier de m'avoir fait faire le tour de cette bibliothèque exceptionnelle. Elle est totalement impressionnante, j'en suis même intimidé. Au moment où nous enregistrons, nous sommes le 13 juin, c'est une véritable remontée dans le temps que vous venez de me faire faire. Quand on écoute les troubles du monde, qu'on connaît les dégâts que les guerres font, on est surpris de voir ce château toujours intact. Avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, il faut remonter au XVe siècle pour trouver les premières traces de la forteresse du Moyen-Âge. Mais commençons par le commencement. Qui êtes-vous, Geoffrey Chevalier ?
Bonjour, je suis guide conférencier à Serrans depuis 2017, après avoir fait quelques saisons estivales ici dans le cadre de mes études. J'ai commencé ici en 2017 et donc au gré des visites et de mes recherches sur place, j'arrive à comprendre de mieux en mieux ce château et il en a beaucoup à dire justement de ses collections exceptionnelles, que ce soit sur le mobilier ou bien entendu sur les livres et cette bibliothèque incroyable.
Vous avez fait quelle formation ?
Et j'ai fait d'abord un BTS tourisme et puis ensuite je me suis spécialisé dans la médiation du patrimoine. Avec une mise à niveau, on va dire, en histoire de l'art, pour avoir au moins un peu de maîtrise de ces sujets et encore.
Donc là, aujourd'hui, vous êtes guide conférencier. C'est vous que les visiteurs croisent et c'est vous qui les accompagnez pour donner des explications. Là, nous sommes installés dans la bibliothèque. Nous sommes auprès d'une fenêtre, dans un petit salon, c'est très très confortable. Enfin, on a l'impression là à nouveau d'être remonté. Là, c'est plutôt version 19e, fin 18e, début 19e siècle l'ambiance serait plutôt celle-là. Tout le monde ne connaît pas le château de Serrans. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur son histoire ?
Bien sûr, alors Serrans, comme vous l'aviez mentionné, a des traces médiévales. Il y a un premier château fort qui est construit au 15e siècle ici, dont on observe toujours les douves en eau autour du château, et les souterrains également, qui datent de cette première forteresse. Et puis il a été reconstruit au 16e siècle, dans un style renaissance. C'est la famille Brie qui commandite ce nouveau château Renaissance. Alors, il y a eu des vicissitudes financières qui ont conduit à l'arrêt des travaux à la moitié du chantier. Et donc, le château n'est pas terminé à la Renaissance. Il n'est qu'à moitié construit. Et il va être racheté au XVIIe siècle par Guillaume de Botru, qui va poursuivre les travaux qui avaient été entamés un siècle avant et qui va achever le dessin des bris, mais vraiment avec cette continuité architecturale. Ce qui est intéressant à Serran, c'est que on a vraiment plusieurs étapes de construction sur deux siècles à peu près, mais avec une continuité, une homogénéité architecturale qui est assez remarquable.
Une cohérence architecturale. Hein.
Tout à fait. Et les Beautrus donc continuent de père en fils à agrandir le château et les bâtiments sont terminés dans les années 1710. Donc en ajoutant les ailes latérales qui entourent la cour, il y a deux pavillons d'angle et qui terminent le tout avec une grille monumentale qui donne accès à la cour. Tout ça, ce sont les Beautrus qui construisent ces éléments-là, en ajoutant en parallèle les bâtiments des dépendances, le pigeonnier, l'orangerie, les écuries, qui sont toujours là et qui témoignent aussi du faste de la vie des Beautrus au XVIIe siècle.
Parce que ce château, il fait quelle superficie ?
Ah, c'est une question dont je ne connais pas la réponse.
Il est phénoménal, enfin.
Oui, alors j'ai jamais réussi à compter le nombre de pièces, figurez-vous, parce que est-ce que dans le nombre de pièces, dans le total, je comptabilise les caves ? Est-ce que les greniers font partie des pièces du château ? Bref, c'est difficile à dire. Les pièces sont très grandes, non ? À l'image de la bibliothèque. La bibliothèque fait 140 mètres carrés. Rien que cette pièce-là est monumentale. Le salon fait 170 mètres carrés. Enfin, on a vraiment des pièces très larges, très grandes, très hautes. Ce qui donne l'impression d'avoir un château très grand, effectivement. Alors, il est grand, mais on n'est pas sur le plus grand des châteaux d'Anjou. À titre de comparaison, Brissac est bien plus grand et bien plus étendu en nombre de pièces.
Ce château, il a une particularité, c'est qu'il est resté dans la même famille depuis quasiment l'origine.
Oui, alors les Beautrus finissent par vendre Serran en 1749 et il est racheté à cette date par Antoine Walsh, qui est le fils d'un Irlandais qui a dû fuir l'Irlande à cause des troubles avec les Anglais. Et donc depuis ce rachat, on est dans une continuité, une succession familiale. Les noms de famille changent par mariage, mais on a vraiment la continuité qui jusqu'à aujourd'hui. Donc les Walsh au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe, par mariage ensuite la famille Latrémouille va hériter du château et au XXe siècle par mariage également la famille Ligne qui va devenir Ligne Latrémouille et aujourd'hui les propriétaires actuels le prince et la princesse de Mérode. En fait, la princesse de Mérode est la fille du prince de Ligne Latrémouille. Donc on est dans une continuité. Ça se fait souvent par les femmes d'ailleurs. Mais on est dans une succession familiale ininterrompue depuis le milieu du XVIIIe siècle.
C'est assez déroutant parce que les propriétaires du château habitent le château. On est presque dans un anachronisme. Quand on pénètre dans ce lieu, tout d'un coup, c'est toute l'histoire qui nous tombe sur les épaules. Enfin, on est baigné dans l'histoire de France, quasiment. Hein. Quand on regarde les plafonds, moi je regarde le plafond de cette bibliothèque avec ses poutres gigantesques. Enfin, on est dans un autre temps, dans un autre lieu, et on est en 2025.
Oui, c'est une capsule temporelle, le château.
Exactement.
On rentre dedans, et en fait, on remonte le temps, et il y a quelque chose, il y a une atmosphère paisible, et qui nous détache de tout, comme vous le disiez, de tous les problèmes contemporains. Ouais. Aucune pendule ne fonctionne aujourd'hui dans le château. Elles ne sont toutes pas révisées, et donc, il y a aussi cette espèce d'arrêt du temps, il y a pas de tic tac d'une horloge, il y a quelque chose vraiment d'intemporel et donc on est là comme nos prédécesseurs qui étaient dans la bibliothèque l'étaient il y a 200 ans aussi. Enfin, c'est rien n'a changé et pourtant ça reste une maison habitée à l'année, ce qui peut paraître paradoxal mais c'est leur maison, leur souvenir de famille ici, donc ils contribuent aussi à l'entretenir et à préserver tout ça. Pour que ça se transmette encore de génération en génération, et en même temps pour que ce soit ouvert et accessible au public pour faire découvrir tout ça.
L'émission s'appelle Entre les pages, une émission de littérature, en Anjou. Et ben moi je suis venu pour cette bibliothèque en fait aujourd'hui pour parler de son origine, pour parler de ce qu'elle contient, pour parler de comment on peut venir la voir. Et donc on commence par le commencement. l'origine de cette bibliothèque. On va dire les premiers livres dans cette bibliothèque, on est à quelle époque ?
L'embryon de la bibliothèque,
voilà, l'embryon,
est créé par Guillaume de Botru au moment du rachat du château en 1636. Guillaume de Botru, c'est un personnage intéressant au XVIIe siècle. Il est courtisan, conseiller du roi, il est très proche du cardinal de Richelieu et écrivain également. Il écrit des textes
impertinents.
Voilà, plutôt impertinents, satiriques, pour se moquer des personnalités de la cour, ce qui lui vaut une petite célébrité. Et alors ça, plus son amitié avec Richelieu, va permettre sa nomination en tant qu'académicien lors de la création de l'académie, la même année que l'achat du château, 1636.
L'Académie française, où il occupe, parce que j'ai fait mes petites recherches, il occupe le fauteuil numéro 15, fauteuil occupé aujourd'hui par Frédéric Vidoux.
Et Guillaume de Botru va apporter les premiers livres au château de Serran. Nous avons un inventaire de 1643 qui précise qu'il y a 76 livres à Serran. C'est très précis comme chiffre. Ça peut paraître très peu à nos yeux d'aujourd'hui, surtout quand on voit la quantité de livres à Serran maintenant. Et en fait, c'est un château qui est encore en plein travaux, qui n'est pas terminé, qui n'est dans les mains de Botru que depuis quelques années. Et donc, c'est déjà un très bon début pour la bibliothèque de Serran. Et ça va ne faire que s'enrichir de génération en génération. Et on a encore dans la bibliothèque les titres qui étaient déjà là au XVIIe siècle, des livres qui sont parfois reliés avec les armoiries de la famille Botru et qui témoignent donc de cette première étape de constitution de la bibliothèque.
Elle s'est donc construite progressivement. L'intérêt des livres n'est peut-être pas toujours présent. Alors on peut supposer Guillaume de Botru, il était intéressé, c'était presque son ego qui était intéressé puisqu'il était lui-même écrivain, mais il y a un grand bouleversement parce que cette bibliothèque, elle va prendre sa forme actuelle. Je vous propose de faire une première pause musicale.
Feels so ancient, this burned up sensation. Can't take it away from me. Baby, I'll always be craving.
Chanté épilogue, c'est Entre les pages sur Radio G. Aujourd'hui, dans mes balades estivales, c'est dans la bibliothèque du château de Serran que je vous emmène. Et nous retrouvons mon guide du jour, Geoffrey Chevalier. Qui est-ce qui lui donne sa forme actuelle ?
C'est le duc de la Trémouille à la fin du 19e siècle qui va créer cette pièce comme on la voit aujourd'hui. Alors lui, c'est un vrai bibliophile, c'est-à-dire un collectionneur de livres. Il peut pas s'empêcher d'acheter des livres. C'est quelque chose qui l'habite depuis ses jeunes années. Et il va engloutir une partie de sa fortune et de son temps dans l'achat de livres en parcourant des ventes un peu partout en France, en Europe, pour acquérir des livres du point de vue du bibliophile intéressant, donc des éditions rares, précieuses, des titres qui sont assez remarquables. Je pense notamment à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la première édition, donc qui est conservée à ses rangs grâce à ce duc de la Trémouille, curieux, passionné, et qui va aussi ajouter à la bibliothèque une dimension scientifique. La plupart des livres de géographie, par exemple, sont achetés par le duc pour satisfaire sa soif de connaissances sur le monde qui l'entoure. Beaucoup, beaucoup de livres d'histoire qui résument les généalogies des grandes familles européennes, des livres sur l'archéologie également. Donc vraiment, il va ajouter ce côté curieux à la bibliothèque que l'on retrouve aujourd'hui. Et il aménage la pièce pour figurer ensemble les livres, ben les siens qu'il a achetés, et ceux des Bautru, et ceux également des Walsh, puisqu'on a fait l'ellipse, mais les Walsh ont largement contribué aussi à l'ajout des livres dans les inventaires du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Les Walsh ont plusieurs centaines de livres à ses rangs, dont la plupart des titres sont encore aujourd'hui dans la bibliothèque. Donc, eux aussi ont grandement contribué à cette richesse aujourd'hui.
Les livres apportés du côté des Walsh, c'était des livres en anglais ou des livres en français ?
Français. Quasi exclusivement en français, parce que les Walsh sont issus d'une famille noble, d'une part, et donc au XVIIe siècle, dans la noblesse britannique, irlandaise, on parle français couramment, et surtout, ce qui change, c'est que les Walsh, en s'installant en France à la fin du XVIIe, ils vont tout faire pour s'assimiler. Et donc, parler français, ça fait partie des choses qu'ils se sont imposées. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, un siècle après leur arrivée en France, ils sont totalement francophones, francophiles et français même.
Avant de commencer cette rencontre, cette conversation, vous m'avez dit que vous étiez intéressé par les livres, pas tant par les romans que par les livres plutôt scientifiques, géographie, anatomie, fleurs, plantes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'exceptionnel? À nouveau, j'aime pas trop ce mot-là, de vraiment particulier du côté de la géographie. Quel livre on trouve du côté de la géographie?
Effectivement, moi, je suis plutôt intéressé par les livres illustrés. C'est mon côté extrêmement éternel enfant. Dans la géographie, on a des livres splendides, des atlas de cartes qui sont magnifiques. Alors, on peut citer les cartes de Cassini. Donc, on a l'intégralité des cartes de Cassini qui avaient été établies au cours du XVIIIe siècle et qui sont rangées dans des boîtes reliées en cuir rouge. Et qui font partie des livres, même si ce sont des boîtes.
On s'attarde sur les cartes de Cassini parce que c'est un ouvrage important. C'est le premier ouvrage, il me semble, je crois, qui va dessiner. Il va dessiner la France, il va dessiner le monde. C'est un moment historique de la géographie, ces cartes de Cassini.
Oui, c'est la première fois qu'on va cartographier un royaume entier. Et puis, quel royaume ? Le royaume de France est quand même très étendu. C'est commandité par Louis XIV, mais ça va être livré quasiment un siècle après. Sous Louis XVI, l'objectif c'est à la fois scientifique et militaire, c'est-à-dire il faut cartographier le territoire royal pour pouvoir mieux l'appréhender, on va dire. Et en même temps, il y a ce défi scientifique de cartographier un territoire sans jamais le voir du ciel. C'est donc un travail de mathématicien qui est extrêmement complexe et qui va donc demander à la famille Cassini 4 générations successives pour réussir à cartographier l'intégralité du territoire français.
Je comprends cette envie d'enfance dont vous parlez, c'est-à-dire que quand on regarde ces objets-là, quand on regarde ces cartes, déjà on rêve, elles font naturellement rêver. C'est-à-dire qu'on les regarde et presque on voyage déjà avec elles, même si elles sont pas forcément, elles ont pas la précision des cartes de l'IGN aujourd'hui, mais quand même, on n'est pas loin de la réalité, mais les couleurs, mais le trait, mais l'écriture nous emmène, enfin voilà, on alors je fais un anachronisme déjà, mais on serait presque chez Jules Verne, quoi. Enfin, on voyage avec Jules Verne quasiment là.
Oui, c'est une vraie invitation au voyage. En fait, les cartes de Cassini sont aussi un document historique incroyable pour pouvoir retracer l'histoire du territoire. Et c'est un outil qui est d'ailleurs aujourd'hui accessible à tous via Géoportail, où l'IGN justement a numérisé les cartes de Cassini pour pouvoir servir d'outils pour plein de, dans plein de contextes. Donc oui, c'est un morceau d'histoire très important.
On est passé un peu brièvement, mais pourtant on ne peut pas passer brièvement sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc qui est là.
Oui.
Une édition originale, là aussi.
Et complète.
Et complète. C'est pas un trésor, mais pas loin quand même.
Oh oui, on peut dire que c'est un trésor quand même, parce que je ne sais pas combien il en reste, mais des éditions originales complètes, c'est plutôt rare. Et effectivement, en plus, elle est dans un très bel état avec sa reliure d'origine. Donc elle est là et on aime la présenter lors de nos visites de la bibliothèque, parce que déjà c'est un livre que tout le monde connaît, même si ça a 250 ans. Et c'est un livre qui est à la fois désuet et en même temps terriblement moderne dans ses conceptions et ses thèmes. Donc c'est vraiment un trésor justement de ce point de vue-là.
Et puis dans son projet, c'est un projet des Lumières.
Oui.
C'est un projet où la science prend le pas sur la religion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, il y a la science, quoi.
Oui, le titre de l'encyclopédie, d'ailleurs, le véritable titre, c'est le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Donc, il y a vraiment cette volonté de marquer la science à égalité avec le reste. Mmh. Et c'est assez nouveau, effectivement. Mmh.
Nouveau, dérangeant, provocateur à l'époque.
Oui, les premiers volumes sont publiés avec l'autorisation du roi. Et puis finalement, il va la retirer, voyant que ça part dans une direction un peu, controversée. Même si Madame de Pompadour va être là pour soutenir quand même Diderot, d'Alembert et compagnie. Mais il va falloir publier le reste clandestinement, donc depuis la Hollande en particulier, ou la Suisse.
J'aime bien l'expression Diderot, d'Alembert et compagnie.
Ouais, bon, je ne fais pas la liste parce que c'est long.
Là, on est assis dans des canapés et on est entouré de livres, mais vraiment presque encerclé par les livres. Il y a quoi, 15 rayonnages de hauteur, quoi. Enfin, c'est quand même c'est.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas décrit la pièce. Oui. Il y a 12 000 ouvrages dans cette salle,
voilà. Ouais.
Et sur à peu près 5-6 mètres de hauteur. De boiseries de chêne, et il y a les rayonnages de livres qui recouvrent l'intégralité de la salle, sauf le mur où il y a la cheminée qui fait toute la hauteur de la pièce. Et oui, c'est presque un décor de cinéma. On croirait presque que c'est des faux. Et en fait, ce ne sont que des vrais livres qui tapissent les murs.
Avec le rêve de tout bibliophile, le rêve, c'est que dans cette bibliothèque, pour accéder au 15e niveau, parce qu'il faut y aller au 15e niveau, hein, c'est pas donné, eh ben, il y a des échelles, quoi. Il y a des rampes et des échelles qui permettent d'accéder tout en haut des livres. Donc, effectivement, c'est une pièce véritablement monumentale, hein, 140 mètres carrés, vous avez dit,
oui.
Hein, un plafond sublime. Vraiment sublime, une gigantesque cheminée à un bout, une cheminée du 18e siècle,
oui.
Avec dessus une immense peinture, c'est un
oui,
tableau.
C'est un portrait qui représente le Antoine Walsh, qui rachète ses rangs au 18e, et le prince d'Écosse, qui était l'héritier catholique du trône de Grande-Bretagne et qui va être soutenu, entre autres, par les Walsh dans sa tentative de reconquête du trône.
Continuez un peu à la parcourir, cette bibliothèque. Le livre le plus ancien, c'est lequel?
Oui, à ma connaissance, c'est le plus ancien. C'est, oui, La Grande Passion du Christ, qui a été publié en 1511 avec les gravures de Albrecht Dürer. Donc c'est un long poème qui parle des derniers moments du Christ et chaque page est accompagnée d'une immense gravure pleine page de Dürer. Donc qui dépeint la passion du Christ. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre du point de vue artistique et en même temps un livre extrêmement ancien, parfaitement conservé, dont il existe assez peu d'exemplaires en Europe. Ça c'est, ne serait-ce que par sa date, c'est déjà remarquable, et en plus par sa qualité, c'est un vrai chef-d'œuvre.
Tout début du XVIe siècle.
Oui.
Alors, à nouveau, quand vous m'avez fait faire le tour de la bibliothèque, on échangeait. C'est pas un incunable, mais pas loin.
Presque. Les incunables, c'est une catégorie de livres, c'est les premiers livres imprimés, et ça s'arrête en 1500. Et donc, tout ce qui est après n'est plus considéré comme incunable.
Bon, 1511. Moi,
on
n'est
pas loin, effectivement.
On peut lui donner une dérogation. On peut lui donner une dérogation, quand même. On ne peut pas le toucher, ce livre, bien évidemment. On peut le voir. Il est ouvert sur une page. Avec cette signature caractéristique d'Albrecht Dürer, où il mélange le A et le D,
oui.
Que tout le monde, enfin, quand on s'attache à la gravure, ben voilà, on reconnaît, c'est comme Gustave Doré, enfin voilà, il y a des repères comme ça pour les gens qui aiment les livres. Avant de continuer cette conversation, laissez-vous bercer par quelques accords de piano. Elles aussi presque anachroniques avec ce titre « La chute » de Aubry Tandé. Une musique aux marges du romantisme. Une musique parfaitement adaptée au lieu du jour, la bibliothèque du château de Serran. Vous écoutez toujours Entre les pages et ce n'est que sur Radio G. Et nous rejoignons Geoffrey Chevalier, l'un des guides conférenciers du château. Il y a quoi d'autre donc je ne vais pas dire il y a quoi d'autre. Sur quels autres livres vous aimeriez attirer notre attention ?
Oh, il y a tellement de choses.
Oui.
on peut citer un livre qui est très intéressant, c'est Les voyages pittoresques dans l'ancienne France. C'est un ouvrage en plusieurs volumes, je crois qu'il y en a 17 volumes, très grand format, très épais, qui est publié entre 1820 et 1878. Rendez-vous compte, hein, c'est presque 60 ans d'édition hein, pour cet ouvrage. L'objectif, c'est de parcourir la France, région par région, et de, en quelque sorte, lister les monuments, le patrimoine français, avec des gravures magnifiques qui sont faites par les plus grands artistes de l'époque. Viollet-le-Duc, en particulier, a participé à cette édition, mais il n'est pas le seul. Hein, ils sont plusieurs dizaines d'artistes à représenter les monuments. Et ça donne une photographie, entre guillemets, du patrimoine français au XIXe siècle, au moment où, justement, il y a une prise de conscience qui se fait sur les églises, les abbayes, les monuments, qui sont plutôt en mauvais état après la Révolution. Et ça va, cet ouvrage-là va faire un déclic qui va conduire à la création des monuments historiques en France et au lancement de grands chantiers de restauration, je pense justement avec Viollet-le-Duc à Carcassonne. Dans cet ouvrage-là, on a les gravures de Carcassonne avant les travaux de Viollet-le-Duc. Et c'est à la fois monumental et merveilleux comme ouvrage. La qualité des gravures est sublime. Et voilà, c'est un très beau livre.
Ça n'a pas été réédité, il y a que...
À ma connaissance, non.
Voilà.
C'est un livre que l'on peut trouver numérisé, alors pas l'exemplaire de Serran, évidemment.
Oui.
Aucun livre de Serran n'est numérisé.
Oui.
Mais on le trouve, je crois, sur le portail Gallica, la numérisation de cet ouvrage, pour se rendre compte du travail de gravure qui est juste phénoménal.
Non mais c'est terrible. En fait, je me rends compte que c'est terriblement frustrant ce que je suis en train de vivre là, parce que rien d'entendre ça, je me dis mais bon sang, enfin, mais j'ai envie de les lire moi ces livres-là.
Ça veut dire que je fais bien mon travail. Je donne envie de lire les livres. Non mais j'ai eu la chance de pouvoir parcourir ces ouvrages-là et j'aurais jamais imaginé moi pouvoir lire ce genre d'ouvrage de mes propres mains en touchant le papier et c'est à la fois une rencontre émotionnelle d'un avec un objet ancien et en même temps une découverte. Je connaissais pas du tout ce type de livre avant de travailler ici et je suis toujours aujourd'hui fasciné par la capacité de l'être humain à créer des choses belles. Sur un principe en plus de donner des connaissances à d'autres.
D'autant plus que nous sommes le 13 juin aujourd'hui. On est peut-être passé un peu vite quand même sur Monsieur de la Trémouille.
Oui, parce que quand même,
parce que
c'est
grâce
à lui.
C'est grâce à lui. Donc, je crois qu'il faut qu'on en dise encore quelques mots peut-être. Donc, fin 19e.
Oui. Alors lui, il hérite du château
oui.
de son cousin, oui. Édouard Walsh, mm-hmm. qui n'a pas d'enfant. Et donc, il va léguer le château à son cousin Germain, mm-hmm. duc de mm-hmm. la Trémouille. Donc il a une cinquantaine d'années quand il hérite du château. Il a déjà sa propre bibliothèque chez lui à Paris. Et l'héritage du château de Serran, c'est une opportunité inouïe pour lui parce que sa famille a tout perdu pendant la Révolution, un siècle avant. Et ils n'ont plus rien en termes de biens immobiliers. Et il va grandir dans l'idée, dans le fantasme de l'histoire familiale prestigieuse. La famille La Trémouille remonte au XIe siècle. Et il va vouloir à Serran reconstituer ce qu'on pourrait appeler un berceau familial qui n'a jamais été à Serran. Et donc c'est des travaux qui vont durer pendant 4 ans à la fin du 19e pour transformer Serran comme on le voit aujourd'hui. Toutes les pièces datent de la fin du 19e et comme c'est un grand collectionneur de livres, il va accorder une attention très particulière à la bibliothèque. Et donc il crée cette pièce gigantesque pour rassembler ses livres, donc il les fait venir de Paris, il les ramène là. En même temps, il rachète la bibliothèque d'un de ses amis qui vient de mourir, donc ça lui permet d'avoir encore plus de livres et de satisfaire sa Sa fascination pour les livres.
Et il fait des acquisitions, quoi.
Et puis, toute sa vie, il va acquérir des livres, en fait. C'est vraiment la politique du bibliophile, d'acheter des livres précis. On leur enseigne bien, visiblement. Et il va aussi relier énormément de livres. Alors, soit des livres anciens dont les reliures étaient abîmées, soit des livres, des rééditions contemporaines, donc fin 19e. Donc il les fait relier la plupart avec le symbole familial que l'on voit partout dans la pièce là sur les reliures, la croix des 4 T, donc chaque branche de la croix forme la lettre T et rappelle les titres de noblesse familiaux.
Autre livre encore sur lequel vous aimeriez attirer notre attention.
Alors il y a la description de l'Égypte, le compte rendu de l'expédition de Bonaparte en Égypte. C'est la seconde édition à Serran, édition qui est publiée sous Charles X à partir de 1820. Et elle est là avec ses volumes de planches monumentaux qui font plus d'un mètre de haut, qui sont difficiles à manipuler à cause de cette taille gigantesque, mais qui sont merveilleux aussi dans la qualité de la reproduction des monuments antiques égyptiens. C'est un livre scientifique, donc il y a vraiment vocation à transmettre les hiéroglyphes, les sculptures, etc., mais aussi la faune et la flore au plus grand nombre, sans besoin de se déplacer en Égypte. Donc on a vraiment une parfaite maîtrise de la gravure pour rendre fidèlement ce qu'ils ont vu là-bas.
Alors on est dans un lieu qui est historique, par définition, un château, des livres anciens. Ce château, il est ouvert au public, donc on peut le visiter. S'il est ouvert au public, c'est parce qu'il est conventionné avec le ministère de la Culture. Et donc, voilà, il y a des obligations qui sont attachées aux monuments historiques, hein, c'est-à-dire les rendre accessibles au public. La bibliothèque fait partie des lieux que le public peut visiter.
Oui.
Mais quand on entre dans la bibliothèque, on voit bien qu'il y a des cordons partout et que donc on peut regarder, mais ne pas toucher. Voilà, ça c'est le...
C'est un défi particulier. La bibliothèque n'a pas été prévue pour être ouverte au public. Il n'y a pas de vitres ou de grilles sur les rayonnages de livres, donc ils sont directement accessibles. Qui plus est, nous avons quand même un défi de conservation de ces livres dans ce lieu, dans ce décor qui a été prévu pour. Et donc, aujourd'hui, on ne visite la bibliothèque que en visite guidée, qu'accompagné par un guide. On ne peut pas se permettre de l'ouvrir en continu, en visite libre, simplement parce qu'il y a, comme je disais, ces exigences de conservation et que c'est une pièce qui a vocation à être découverte en petit comité aussi, ne serait-ce que pour s'imprégner de l'ambiance, de l'atmosphère de la pièce. C'est assez important.
Vous venez d'en parler, il y a des obligations, mais... plus que des obligations, je parlerai presque d'obligations morales, c'est la conservation, parce que c'est la pérennité, parce que finalement, puisque l'objet existe et qu'on peut pas imaginer qu'il disparaisse, il faut le conserver, vous avez des règles particulières, des contraintes particulières de conservation. Je pense à la température, je pense à la lumière.
Alors la température n'est pas une contrainte dans le sens où, évidemment, c'est pas la même l'hiver et l'été. Il n'y a pas de changement brutaux. On laisse la pièce, et le château en général d'ailleurs, le château n'est plus chauffé depuis 40 ans, et on le laisse faire. On est quand même dans une région relativement tempérée pour l'instant, et donc on n'a pas de température extrême l'été ou l'hiver. Et ce qui est très important dans la conception même de la pièce, c'est qu'elle est entièrement habillée de boiseries de chêne. On a les parquets, les boiseries murales, le plafond, tout est entièrement en bois. C'est un véritable régulateur hygrométrique. Donc finalement, la température n'a que peu d'importance dans tout ça. L'hygrométrie, c'est vraiment ce qu'il faut mesurer. Et comme on est dans un bâtiment ancien, pas isolé, avec du bois partout, l'hygrométrie, elle se régule naturellement. On n'a pas d'hygromètre dans la pièce. Et à vrai dire, il n'est pas besoin d'en mettre parce que on le voit... sur l'état des livres, ils sont en parfait état, ils ne souffrent pas de l'humidité, qu'elle soit trop présente ou trop absente. Et je crois même avoir entendu dire la propriétaire, que les conditions de conservation sont meilleures depuis qu'il n'y a plus de chauffage dans la pièce. On avait un chauffeur à GR pulsé avec des chaudières qui envoyaient de l'air chaud dans la pièce, dans tout le château. Ça apportait de la poussière d'une part, et puis ça avait tendance à dessécher justement cette atmosphère. Et donc finalement, c'est mieux en laissant la pièce se réguler toute seule.
Allez, un nouvel intermède musical.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens. Je me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corde moldue. À la part, j'ai pas mordu. Poisson volant contre un courant, je suis pas comme eux. Je trace une route, voyage en soude. Je joue le jeu.
Enfoui depuis période collège, quand mon amour fut un manège. Quand tu m'avais tendu ce piège, t'avais disparu seulement pour moi. Et j'y ai cru de ma candeur. Maintenant mes phobies ont peur. Quand je suis sincère, c'est l'ascenseur. J'offre la corde de mon cœur, mais c'est un leurre. J'ai plus le cran de m'envoler, avec les autres m'abandonner. J'ai le vertige de mes anges, je suis tout en haut comme un étranger. T'as pris le temps que je voulais donner pour mes amis et mes amours. J'essaie de polir autrement d'ados sur mon visage aride.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens. Je me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corde moldue. À la part, j'ai pas mordu. Poisson volant contre un courant, je suis pas comme eux. Je trace une route, voyage en soude. Je joue le jeu.
Le cœur est toujours affamé. Oublié parfois piétiné, mes cicatrices me fait divers. Éclat de rire, éclat de verre. Quand toutes mes failles passent la lumière, comme un Versailles, je m'en sers. Pour ensuite les recycler, en mélodie, en opère. Alors à tes pieds je dépose ce petit bouquet de névrose. Alors à tes pieds je dépose ce petit bouquet de névrose.
Poisson volant contre un courant, je suis pas comme eux. Je trace une route, voyage en soute. Je joue le jeu.
Tu sais, moi je donne ce que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. Je suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent. C'est moi je donne ce que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent. Tu sais moi je donne ce que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent. Tu sais moi je donne ce que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent. C'est moi je danse que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent. Tu sais moi je danse que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent.
Si je programme régulièrement Théophile, c'est parce que j'aime bien cet artiste. Il a une forme d'intégrité, y compris dans sa façon de chanter, qui le rend émouvant. Et puis ce titre remixé, Poisson volant, c'est l'occasion d'avoir une pensée pour Nino Vella, disparu il y a presque un an, jour pour jour. Vous êtes toujours sur la fréquence 101.5, celle de Radio G. Retournons dans la bibliothèque du château de Serrant. toujours sur ce lieu qui est quand même assez extraordinaire, dès qu'on parle de l'époque contemporaine, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler du Covid, de ses méfaits et de ses bienfaits. Le Covid, pour vous, ça a été un bienfait?
Alors, ça dépend du point de vue.
Oui, pour la bibliothèque.
Pour la bibliothèque, ça a été une très belle période. Pour le château, un peu moins, puisque fermeture au public, donc perte de ressources pour l'entretien. Pour la bibliothèque, en revanche, ça nous a permis de d'installer un échafaudage pour pouvoir nettoyer chaque livre un par un. Avec du matériel.
12 000 livres.
12 000 livres, oui. Avec du matériel professionnel qui avait été mis à disposition par les archives départementales. Et, alors, ça nous a pris quand même 2 mois. C'est ce qu'il fallait.
Un confinement.
Et c'est quelque chose qui ne peut être fait que sur des périodes comme ça, où, on n'est pas dérangé, en fait. Mm. C'est long, c'est fastidieux. Mais c'est que du bienfait pour les livres.
Et puis, vous m'en avez parlé, puisque vous étiez là à l'époque et vous y aviez travaillé. En manipulant les livres, vous avez découvert ce que contenait finalement cette bibliothèque.
Oui, alors parce que jusqu'en 2020, donc, je travaillais ici sans avoir pu rentrer vraiment dans le cœur de la bibliothèque. Je connaissais les titres principaux pour en parler au public. Mais finalement, oui, c'est grâce à cette opération qu'on a pu voir la beauté des reliures, même les plus insignifiantes, la façon de classer les livres thématiques dans la bibliothèque, et puis découvert aussi des ouvrages qui sont rangés tout en haut qu'on ne voit pas d'en bas, sauf avoir des jumelles qui sont extraordinaires aussi. Et voilà, donc c'est vraiment un moment qui, professionnellement et personnellement, a été important.
Autre question importante, on a parlé de la dimension, de l'émotion qu'on peut ressentir dans un lieu comme ça. Il y a un inventaire des livres de cette bibliothèque?
Alors, il y a un inventaire, tout ce qu'il y a de plus classique pour une bibliothèque ancienne, c'est des petites fiches qui sont classées par ordre alphabétique selon l'auteur, qui sont rangées dans les tiroirs d'une table de jeu à l'entrée de la pièce.
Pour les gens de ma génération, quand on entrait dans une bibliothèque, c'est comme ça qu'on cherchait les livres. Mais pour ma génération, hein. Aujourd'hui, on prend un clavier, on consulte un écran, mais pour l'instant, c'est pas numérisé du tout.
Comme tout le château, comme on l'a dit, c'est une capsule temporelle, y compris pour l'inventaire de la bibliothèque. Et alors, il y a aussi une dimension numérique de cet inventaire qui n'est pas dans la pièce, et que la bibliothèque est classée archive historique depuis 2002. Mmh. Donc c'est un classement qui équivaut à monument historique, mais pour les documents anciens. Donc bibliothèque et archives du château sont classés de cette façon. Ça garantit une protection, la bibliothèque est devenue inaliénable. Donc on peut pas la séparer de son château et on peut pas la vendre par lot. C'est pour garantir la préservation de cette collection sur place.
Bah oui.
Et donc ce classement a permis l'inventaire numérique de la bibliothèque qui est enregistré au ministère de la Culture.
Ça veut dire, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un bel endroit. C'est un endroit d'un calme. Enfin, on entend dehors les oiseaux. On a au travers des rideaux qui protègent de la lumière directe du soleil. On voit le soleil, mais c'est un endroit paisible, véritablement paisible. C'est un trésor. Ça veut dire que ce lieu intéresse nécessairement des chercheurs, des historiens, des géographes. Bref, beaucoup de gens peuvent être intéressés. Comment ça se passe pour ces gens-là? Il y a des gens qui peuvent venir étudier ici, travailler ici?
Alors là, on a assez peu de demandes d'une part, parce que finalement c'est assez confidentiel. La bibliothèque de Serran, elle n'est pas très connue, même si c'est ce qui fait la célébrité du château, mais le château est peu connu finalement. Et puis, étant donné son caractère privé, une bibliothèque qui, si le château n'était pas ouvert au public, elle ne serait pas visible. C'est une bibliothèque qui est classée archive historique. Du coup, il y a vraiment cette volonté de conserver les livres dans le meilleur état possible, dans leur décor d'origine. Donc, elle n'est pas ouverte à la consultation. J'ajoute à ça un élément important, c'est que même s'il y a des éditions rares, on a parlé de certains titres, on les retrouve ailleurs dans une bibliothèque publique et souvent maintenant numérisée. Donc en fait, il n'y a pas d'obligation non plus à ouvrir cette bibliothèque aux chercheurs puisqu'ils peuvent consulter les mêmes éditions ailleurs en France. Ce qui fait que on reçoit pas de chercheurs.
Oui, mais non, moi je suis pas d'accord. Je pense que il y a des éditions originales. Même la reproduction, ça compte pas parce que une édition originale, ça porte le poids de sa propre histoire, ça porte de l'émotion de sa propre histoire. Donc, je dis ça en plaisantant, bien évidemment, je comprends parfaitement, mais très honnêtement. Je suis prêt à déposer une demande d'étude pour y passer des heures dans ce lieu.
Ah, je vous comprends. ça donne envie d'y rester.
Oui, bah oui.
Mais en revenant sur les éditions originales, même une édition originale a été éditée en plusieurs exemplaires.
Ce qui permet
d'avoir la même chose ailleurs. Après, je comprends la portée symbolique et historique d'un ouvrage quand on est chercheur et qu'on travaille sur un sujet en particulier. Il y a tout intérêt à pouvoir accéder au maximum d'éditions identiques
d'un
même ouvrage.
Bien sûr.
Mais là, ça ne m'appartient pas. Je ne suis que guide conférencier. Ce n'est pas ma bibliothèque.
Parce que, en plus, je suis sûr qu'au 15e rang du 3e rayonnage, tout en haut, à la 67e place, il y a un livre que personne n'a fait, auquel personne n'a fait attention et qui est un trésor national.
Probablement. Après, il y a des éditions qui, extérieurement, n'ont aucun intérêt, mais en fait, il y a une dédicace à l'intérieur. Par exemple, on a une dédicace de Maupassant à la Duchesse de la Trémouille, fin 19e. C'est une édition, je sais plus quel roman, ça doit être Le Horla ou quelque chose comme ça. Extérieurement, la reliure n'a pas d'intérêt, il est au milieu de la section littérature, mais finalement, ce livre est unique en soi parce qu'il y a cette dédicace de l'auteur à la propriétaire du château à l'époque.
Tout comme il y a une dédicace de Victor Hugo.
Au duc de la Trémouille, oui.
Au duc de la Trémouille. Alors cette dédicace qu'on peut voir, là le public peut la voir. Et si le public fait attention, il verra que Victor Hugo écrit à la plume et il a écrit quelque chose, mais en fait c'était j'écris qui voulait écrire et c'est surchargé, c'est raturé. Enfin, je trouve que la dédicace est magnifique avec cette signature.
La dédicace en plus c'est d'un cynisme terrible et c'est vraiment la personnalité de Victor Hugo qui ressort. En fait, on pense que le duc de la Trémouille a été terriblement insistant pour avoir sa dédicace et que Victor Hugo a cédé aux caprices ducales et il a écrit une dédicace salée qui dit je ne me résous que sans peine à gâcher cet admirable papier dont je suis l'auteur.
Hugolien, voilà. Tout à fait hugolien. Vous travaillez depuis plusieurs années dans ce château, donc c'est votre lieu de travail, c'est assez quand même, c'est là encore un anachronisme, on est en 2025, hein, et donc vous rentrez dans une capsule temporelle tous les matins. Quel est votre endroit préféré de ce château?
Ah, c'est une bonne question, et ça varie selon les années et selon les saisons aussi. Bon, la bibliothèque est incontestablement l'endroit où on se sent le mieux à Serran, à mon avis. Je crois que je dirais la bibliothèque. Je réfléchis parce que vraiment ça change selon les saisons, puisque selon la lumière, selon la température dans le château aussi, on se sent plus ou moins bien dans certaines pièces. Mais la bibliothèque, à chaque période de l'année, peut-être même plus encore à l'automne et au début de l'hiver, elle a ce côté chaleureux. On a envie d'allumer un feu dans la cheminée et d'y passer des heures, des nuits d'insomnie ici. C'est vraiment une ambiance de film.
Effectivement, oui. Ce qui est terrible, c'est que la métaphore à laquelle on le recourt, c'est la métaphore de la modernité. C'est-à-dire que vous faites référence au film, au cinéma, alors que ça devrait être presque l'inverse, quoi. C'est voilà, parce que en soi, c'est vraiment porteur d'imaginaire. On rappelle que le château est ouvert au public.
Tout à fait. Mmh. On est ouvert de avril à novembre. Et l'été, là, de juin à septembre, c'est ouvert tous les jours. Donc, on propose des visites guidées tous les jours pour découvrir la bibliothèque, mais pas que. Mmh. On réserve quelques chambres qui sont également assez fragiles pour la visite guidée, notamment la chambre de la Duchesse de la Trémouille. C'est une superbe chambre qui a conservé, comme tout le reste du château, son mobilier d'origine, mais qui a cette ambiance particulière aussi, feutrée, avec ses tissus d'époque partout. Et elle a la duchesse avait un salon d'habillage digne des plus grands hôtels particuliers parisiens. Une pièce baignée de lumière avec de grands placards pour ranger les vêtements. Non, vraiment, la visite de Serran permet de toucher du doigt ce qu'était la vie de château d'une grande famille au XIXe siècle, puisqu'on voit les chambres, les bibliothèques, salons, mais également les salles qui étaient réservées au personnel du château, les cuisines par exemple. Donc ça nous fait traverser le quotidien d'un château à la fin du 19e.
Pour avoir toutes les informations, il suffit d'aller sur le site du château de Serran. C'est
oui.
Pas plus compliqué, on a toutes les informations, il y a tous les éléments pour venir. Vraiment, moi j'ai fait une belle découverte. C'est véritablement une découverte pour moi et c'est une découverte magnifique. Je remercie Geoffrey Chevalier de m'avoir accueilli, guidé. Je remercie aussi finalement la famille des propriétaires qui ouvre ce lieu au public et je trouve que c'est toujours bien que on partage. En fait, c'est pas non plus une vertu qui est forcément courante et voilà, c'est aussi des remerciements aux propriétaires du château. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Encore un grand merci à Geoffrey Chevalier pour son chaleureux accueil. Dire que je vous recommande la visite du château pourrait sembler redondant. Dire que je vous souhaite d'être aussi émerveillé que moi par cette majestueuse bibliothèque est un vœu que je formule. Mais il est temps d'éteindre les lumières du studio. Mais avant cela, je dédie cette émission à la mémoire d'Anne Prono. Elle animait avec toute une équipe l'émission Impromptu littéraire sur cette même antenne depuis de nombreuses années. Un pari un peu fou. Vous donner rendez-vous deux fois par semaine pour un moment de lecture. Mais Anne, c'était une passionnée de culture sous toutes ses formes. Elle pratiquait elle-même la sculpture, le dessin, la danse. Elle était une des responsables de la bibliothèque de Cantenay-Épinard et elle m'y avait accueilli pour une émission spéciale. La maladie l'a fauchée. Toutes mes pensées vont vers sa famille, vers ses nombreux et nombreux amis, et bien entendu vers l'équipe des impromptus littéraires que je sais orphelines. Au cours de l'émission, vous avez entendu Split Cake, qui a chanté Épilogue, Aubry Tandé, qui a joué La Chute, et Théophile, qui a interprété le remix de Poisson au volant. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 30 juillet à 17h. Je vous emmènerai dans un lieu insoupçonné, la bibliothèque de la Société d'horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire. Là aussi, quelques joyaux sont regroupés et j'espère que ce sera une découverte pour vous. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, 1.7 tout.